voix nue. Cette semaine, Virginie Bloch-Lenné rencontre Xavier Emmanuelli. Ce soir, médecin des prisonniers et des vagabonds.
Xavier Emmanuelli, bonsoir.
Bonsoir.
Nous nous approchons petit à petit en parlant de votre vie, en suivant un ordre chronologique, de la création du SAMU social de Paris en 1993. Et ce soir, il sera question de la période que vous avez passée à Fleury-Mérogis. Et il sera question aussi de la maison de Nanterre où sont soignés et rassemblés les vagabonds, les toxicomanes, des exclus. Pourquoi est-ce en 1987 que vous commencez à Fleury-Mérogis et non pas plus tôt et non pas jamais? Voilà. Qu'est-ce qui se passe en 1987?
Avec MSF, j'avais rencontré le sida en Afrique. Je trouvais ça extraordinaire. Extraordinaire parce que, voyez, dans ma vie d'un vieux médecin, j'ai rencontré des pathologies étranges, évidemment. La lèpre, ça m'intéressait, la tuberculose, je ne raconte pas. Je n'avais pas suivi le même chemin que mon père, parce que j'étais arrivé dans le soin des populations entières. Et j'ai vu le sida apparaître. Le sida existe depuis toujours, hein, je veux dire seulement. Il était confiné dans... C'est comme Ebola, c'était des clusters. Il vient du Cameroun depuis... On suit sa trace depuis le 19e siècle et même avant. Mais tout d'un coup, en 81, il apparaît. Il apparaît parce que changement de mœurs. Et je trouve ça passionnant.
Parce qu'il y a des voyages, parce que les gens
parce
voyagent.
En Afrique, à l'époque, chez les paysans, une vraie thérapeutique, ça se fait par piqûre, si vous voulez. Bon, des fois, on ne change pas trop l'aiguille. Alors, c'est comme ça qu'on a répondu le sida, l'hépatite C, enfin, j'en passe. Toujours est-il que j'avais vu une maladie disparaître. Une tueuse c'était la variole. La variole qui avait été la vieille compagne des hommes depuis toujours, qui tuait largement, y compris le roi d'ailleurs, Louis XV, mais d'autres. Et j'étais au Bangladesh. À l'époque, j'étais en 72. Et je me rappelle, dans le district de Chariakandi, on était avec les camarades et puis on montrait des enfants qui mouraient de variole au ministère de la Santé. À l'époque, au ministère, on vous reçoit, tous les rendez-vous de la matinée viennent ensemble. Chacun entend les doléances des autres, enfin, et font des commentaires. Donc, moi, je viens avec mes statistiques du trimestre. Et le ministère de la Santé a 300 enfants morts de variole. Et le gars me dit, ah, 300, je dis, mais c'est une catastrophe. Il dit, ouais, c'est bien dommage. Mais bon, ils se réincarneront. Il y a un changement de conception. De la
ils se réincarneront.
Oui. Mais oui, puisque c'est, c'est le cycle. Et bon, moi, c'était pas tout à fait mon opinion. Enfin, je veux dire que c'était quand même. Et puis, là-bas, en 72. En 76, il n'y avait plus un cas de variole sur la Terre. Elle avait disparu. Et j'ai vu disparaître une maladie. Elle était morte. Sauf dans des laboratoires P4 aux États-Unis ou je ne sais pas où. On la garde pour des mauvaises actions. Bien sûr, on garde des souches. Pour tuer des ennemis qui sont plus vaccinés, du coup. Donc, plus personne n'est vacciné dans la rue, là autour de vous. Je ne suis pas sûr que vous le soyez. Personne n'est vacciné contre la variole. Et donc, il y a des souches cachées quelque part, mais volontaires. Donc là, cette maladie a disparu. Et voilà que je voyais naître une pathologie qui allait devenir une pandémie. C'était fascinant. Puis on n'avait pas de traitement, puis on ne la comprenait même pas. C'est des camarades, pas ceux qu'on croit, c'est pas Montagnier, tout ça, c'est les Bovis, c'est des gens qui n'ont pas le nom au Panthéon, mais peu importe. C'était une lutte. Sherman, les Bovis, un jour on leur rendra justice. Mais ça m'intéressait tellement que j'ai voulu suivre la trace du sida. Et c'était où? C'est à la prison. À cause des échanges de seringues. C'était des échanges rituels que les gens se faisaient, les toxicos. Et vous êtes rentré dans la drogue parce que quelqu'un vous y introduit.
Mais comment les seringues, comment les prisonniers avaient-ils des seringues ?
J'aime bien votre question, il faut toujours retourner à la proposition. Parce qu'ils étaient toxico avant, et c'est pour ça qu'ils avaient amené en prison.
Oui, mais comment...
Mais ils rentraient avec le sida.
Oui, mais les seringues, comment continuaient-ils à avoir des seringues ? On ne leur enlevait pas les seringues ?
Il y a eu des écoles, mais c'était pas la peine de se...
D'avoir une seringue.
Une seringue, puisqu'ils étaient déjà plombés. Puis vous pouvez faire n'importe avec des stylos à billes. Mais il a fallu l'arrivée des seringues jetables, des seringues, vous savez, pour diabétiques. Autrement, on n'aurait pas pu le faire. Et donc, c'est l'industrie. L'héroïne, c'était aussi un produit industriel. Autrement, ça n'a pu naître que par des... Et à la prison, vous voyez beaucoup de... Ça vous fend le cœur, parce que les détenus, ils ne sont pas condamnés à mort. Ils ont fait quelques délits, volé quelques voitures, fait le cambriolage. La société doit punir, éduquer, mais ils sont condamnés à mort, là, avec le sida. Et donc, je voulais voir. J'ai monté un système. Et alors, comme d'habitude, vous allez voir, j'allais voir des grands infectiologues. Mais qu'est-ce que valait ma voix ? Un petit médecin de prison, ça ne peut être qu'un médecin, une raclure, c'est pas possible. Demander quelque chose. Puis pour détenu, c'est quoi ? C'est la lie de la terre. Arrêtez de nous emmerder avec ça. Et puis c'est la prison, c'est la pénitentiaire qui s'occupe, qui fait de la médecine. Moi, j'étais... Enfin, les gens pensaient que j'étais un médecin de la pénite. Mes infirmières, je les notais, mais c'est la pénitentiaire qui les notait, en fait. Et donc, il a fallu faire exploser ce cadre. Et ces pauvres mecs... Mais à l'époque, on prenait conscience du sida homo. Et là, il y avait des consultations, parce qu'il y avait une communication. Les gens avaient accès à la communication. Vous n'avez qu'à regarder les films qui sortent maintenant, Act Up et tout ça. Mais les pauvres détenus, ils n'avaient rien. Vous remarquez, quand vous avez une consultation avec des détenus que vous amenez, consultation traditionnelle, qui vous pique le sac à main des travelots, enfin, vous n'avez pas bonne presse. Et vous essayez, parce que ça vous rend fou. De voir des mecs de 25 ans, de 20 ans, qui vont mourir de... Donc j'ai essayé de monter un système, d'abord faire sortir le sida de la prison, que soit la DAS qui prenne, enfin bref, je me suis battu. Et j'ai appris, il n'y a pas que le sida, il y a aussi les comportements des gens. Je suis un bon citoyen, les gens qui ont fait des bêtises, faut les punir, il n'y a pas d'erreur. Mais ce n'est pas leur place derrière les barreaux, parce que les gens ne peuvent pas s'épanouir, quoi. Ils sont trois par cellule, donc il y a un qui mange, l'autre qui va à la selle, comment on fait ? Est-ce qu'on y pense à ça ? Alors il faut des tours de garde. Les vieux gardiens savaient façonner une cellule. Vous ne mettez pas ensemble des gens qui n'ont aucune compatibilité. Mais vous ne mettez pas ensemble non plus des gens qui vont qui vont fomenter des révoltes ou se faire intoxiquer. Donc, ils savaient faire. Mais la nuit pénitentiaire commence à 6 heures. Pendant la journée, les gens viennent, rencontrent des éducateurs, des médecins. Mais la nuit, 6 heures du soir, on est tout seul.
Quand vous étiez médecin à Fleury-Mérogis, vous passiez combien de jours par semaine sur place et combien d'heures à chaque fois ?
Tous les jours.
Ah, tous les jours, vous n'étiez pas ailleurs ?
Je faisais des anesthésies, puis j'étais à MSF aussi. Puis, de temps en temps, on se prenait des congés pour partir, je ne sais pas où. Il faudrait que je vous montre des tracts. Enfin bref, peu importe, j'étais pas très copain avec certains matons.
Donc vous assistiez à la nuit pénitentiaire, Xavier Emmanuel,
mais non,
vous la voyiez tomber.
On distribuait des neuroleptiques, parce que les gens étaient livrés eux-mêmes. C'est des gens qui étaient assez frustres. Et tout d'un coup, ils se trouvaient tout seuls avec leur corps.
Mais qui les délivrait, les neuroleptiques ?
Les infirmières, les aides-soignants, et aides-soignants qui sont gardiens. Et donc, mais pour pas qu'ils les dilent, on les diluait dans l'eau. Mais l'hydrolyse des neuroleptiques, je ne sais pas ce que ça donnait, mais... Donc bref, la nuit, livré à soi-même. Et là, on découvre qu'on a un corps. La lumière est diffuse, elle est réduite. On découvre qu'on est myope, qu'on ne voit pas bien, parce qu'on regarde la télé. Et tout d'un coup, le corps apparaît. Et le corps, on a peur de tout. Tiens, j'ai des boutons, je vais attraper le sida, l'intoxication alimentaire, j'ai eu la chiasse. Et petit à petit, le corps se fait parle, alors qu'il s'en foutait. À 25 ans, vous n'en avez rien. Le corps ne vous intéresse pas plus que ça, sauf un peu pour la sexualité, mais pas votre corps intérieur, votre santé. Et là, il la découvre. Et vous ruminez ça. Et puis le temps, vous n'êtes pas un temps qui avance, vous êtes dans un temps immobile. C'est le présent, demain sera pareil qu'aujourd'hui. Vous ne prenez pas d'initiative, il y a des copains détenus qui me disaient, des fois, je restais devant une porte quand il était sorti. Et je ne savais pas quoi faire, j'attendais qu'on me l'ouvre, mais il avait le droit de l'ouvrir. Donc si vous voulez, il y a un grand basculement des comportements. Le corps, le temps, l'espace. L'espace symbolisé, les cellules sont surchargées. La parole veut rien dire. J'ai vu des gens qui se cousaient la bouche. Ça veut dire que je peux pas m'exprimer. Quand est-ce qu'arrive mon procès? J'en parle au gardien, qu'est-ce qu'il y peut? La parole administrative, oui, mais toi t'es un détenu, qu'est-ce qu'elle vaut ta parole? À qui s'adresser? Qui peut entendre? Comme disait Lacan en parlant de la psychose, quand la bouche ne peut pas parler, c'est le corps qui parle. Et il parle. Alors je fais une étude sur les tatouages, sur ce que ça voulait dire. J'ai appris l'exclusion. La prison était mon école, vraiment. Ce malheur, cette aliénation en fait, on ne comprend pas le malheur des gens. Je ne dis pas qu'il faut des prisons 4 étoiles, je ne sais pas quelle est la solution, j'y ai pas réfléchi. J'ai eu beaucoup de copains, comme Claude Mauriac, des années 70, ils ont beaucoup réfléchi sur... Michel Foucault, évidemment, j'avais tout lu, mais c'était plus la même clientèle, c'est toxicomanie. Et c'était fascinant, ça. La toxicomanie, qu'est-ce que c'est que ce psychisme? C'est la rencontre d'un produit, mais d'un psychisme. Mais aussi, la drogue, elle commence dans les années 70. Avant, aucune société n'avait cette épidémie. Et puis, on commence à voir cette épidémie, c'est nouveau, ça. Et on ne maîtrise pas. Et qu'est-ce que c'est? On vous parle d'intoxication par l'alcool, on dit alcoolisme aigu. Mais pour la drogue, on vous dit toxicomanie. C'est-à-dire, c'est un bouleversement complètement du psychisme. C'est, on dirait, autre chose. Et là, les gens sont démunis, ils ne l'avaient pas rencontré encore. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et ces pauvres gars, et filles d'ailleurs, la prison m'apprend. Qu'est-ce que devient le corps? Qu'est-ce que veut dire une parole rentrée? Mon père le savait un peu, la psychosomatique, la médecine, mais moi je trouvais une autre forme. Et le sida omniprésent. Et dans le sida, la tuberculose. La maladie dans la maladie. C'est vrai, c'est des paliers en plus. Les mecs, ils sont gâtés, ils sont tous, sans compter les délabrements du corps. Donc vous apprenez. Vous apprenez les comportements de groupe, vous apprenez qu'est-ce que c'est qu'un dominant. Alors, on disait par exemple, il faut distribuer. Parce que les gens n'avaient pas très bien compris, pensent, le sida homosexuel, c'était ça le truc. Alors, on dit, vous allez distribuer les préservatifs en prison. Mais attendez, la mythologie de la prison, c'est une mythologie virile. Essayez de donner les préservatifs aux gens, tu me prends pourquoi? Pour un PD? Non. Il fallait pas. On ne comprend pas l'environnement culturel, ce que ça veut dire. Après, il faut mettre à disposition des gens, évidemment. Et puis, il faut faire des parloirs libres. Autrement, vous n'avez pas tellement le choix. Toute cette période prison m'a éveillé, en quelque sorte. Et pour un médecin, vous avez quand même l'échec. Qu'est-ce que je ne pouvais rien faire? Bon, la ZT, un jour, on découvrira que la ZT, c'est...
Vous pouvez rappeler ce que c'est, Xavier Emmanuelli?
C'était le seul traitement qu'on avait, AZT, qu'on donnait, qui venait pour laboratoire Welcome. Il y a toujours des laboratoires derrière.
Et vous dites, un jour, on découvrira que l'AZT...
n'était pas vraiment pas la molécule qu'il fallait. Bon, je ne sais pas si elle était utile, efficace. On ne peut pas en discuter de là. Je veux dire, on ne va pas faire tous les procès des laboratoires tout le temps.
Ouais.
C'est ce qu'on avait à l'époque. Et après, on a trouvé des vraies molécules qui marchaient.
En 1992, Xavier Emmanuelli, vous travailler à la maison de Nanterre.
Ah, je me suis fait nommer. Je croyais que je connaissais bien l'exclusion.
Pouvez-vous expliquer ce qu'était la maison de Nanterre?
J'avais un peu marre de la prison. Et je voulais retrouver mon boulot de médecin clinicien. Pas faire d'anesthésie, c'était fini, ça m'avait passé. Et donc, il y avait un poste que quittait un de mes copains qui s'appelait Patrick Henry, qui avait monté une consultation à Nanterre. Or, Nanterre, c'était une survivance du passé, toujours la même chose. On amenait tous les clochards de Paris. Qui les amenait? Mais la police. Parce que c'était une force spéciale qui s'appelait la Brigade d'assistance pour personnes sans-abri.
BAPSA,
qui existe encore, mais qui a d'autres finalités et d'autres personnels. On devait ramasser les gens, on devait. Dans la rue, parce qu'ils étaient délinquants. Délit de vagabondage, délit de mendicité. Les gens dans la rue.
Délit de vagabondage supprimé en 1994 seulement.
13. Ouais. Et donc, les flics les ramassaient. Chacun sait qu'ils ne mettaient pas des gants blancs pour ramasser les gens. Ce n'était pas des assistants sociaux, qui n'en mettent pas d'ailleurs. Mais c'était une course-poursuite déjà, puisque c'était l'ordre. Et à chaque fois, vous trouvez la notion de ordre. Dans les accidents de voiture, c'était police, secours, ordre. Là, un problème de société, l'ordre d'abord. Les migrants, actuellement, c'est l'ordre. C'est d'abord le ministère de l'Intérieur. Avant tout, on met l'ordre. Et ça date de... C'est toutes les sociétés depuis le 19e siècle. C'est comme ça. Quand on va bien, on fait un peu la charité. Mais quand on a fait trop de charité, on va vers l'ordre quand même. C'est un balancier.
Un balancier.
Et alors donc là, c'était la notion d'ordre. Et les gens... Personne ne s'en occupait de ça. Vous pouvez regarder. Regardez les photos. Elle l'a, pas à peine.
J'ai regardé. Donc, c'est des lésions sous des oripeaux de vêtements, des couches et des couches de vêtements.
Et alors, c'est putride. Les gens qui retirent jamais leurs chaussettes, le pied pourri.
La chaussette entre dans la peau, confond avec la peau.
Oui. Puis des fois, vous avez des lésions, des cancers de la face qui apparaissent. Et tout d'un coup, mon apprentissage à la prison m'apprend ce que c'est que le déni de son propre corps. Les gens sont absents de leur corps parce que leur plainte ne peut pas être entendue. Elle n'est pas entendue. Et que personne ne les regarde. Quand vous n'existez pas dans les yeux des autres, vous n'existez pas dans vos propres yeux. Et donc, les gens arrivent dans un état effroyable. Ils ne viennent pas aux urgences. On les amène pas aux urgences. On les amène dans un coin, derrière des grilles, où il y a ma consultation. C'est un coin maudit parce qu'il n'y a même pas de lunettes dans les chiottes. Il n'y a pas d'évacuation des eaux. On va dans les bosquets. C'est un truc d'un autre temps.
Et on est pourtant en 1992.
Oui.
Ouais.
Et moi,
on était en 1992.
Je suis dans le tiers-monde. Bon, je ne suis pas trop dépaysé. Un peu étonné quand même que dans mon pays, il y a ça. Mais enfin, après tout, je sais faire. Des infirmières géniales. On apprend là, avec Odile, avec Josepha, cette pathologie. Et vous ne pouvez pas savoir, il y avait des pédiluves. Le matin, vous décortiquez. Les filles, toutes mignonnes qui sortent de chez le coiffeur, sont humblement dans les pieds pourris des gens, en train de retirer les peaux. Une odeur à couper le souffle, mais vraiment à couper le souffle. Sauf un jour, j'entre dans ma consultation. Ah, mais ça sentait la violette, dis donc. C'est quand même un peu... Je renifle, m'approche. C'est quelqu'un qui avait quand même bouffé le parfum qui traînait là. Ne connaissent pas leur corps, ne sont pas en danger.
Et ils n'ont pas envie d'être là. Pas du tout. D'être examinés, déshabillés.
Mais ils n'ont pas de demande. C'est ce que disaient mes psychiatres. Alors, pourquoi ils en arrivent dans cet état-là? On dit, ben oui, mais à force d'être dans la rue, le seuil de perception de la douleur est augmenté. Rien du tout. Ils sentent la douleur, ne la comprennent pas. Ne la comprennent pas. De toute façon, la comprendraient-ils qu'il n'y a pas de tribune pour eux. Et donc, personne ne peut les écouter. La parole, il n'y a pas de parole. Et donc, c'est un peu la médecine vétérinaire. Et puis, ce qu'on m'avait appris depuis que je suis un tout jeune médecin, il faut faire déshabiller son malade. Parce qu'il cache des lésions. Il faut le mettre tout nu. Vous ne voyez jamais ça aux urgences. On dit toujours « déshabillez-vous ».
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on ne voit jamais aux urgences ?
On ne déshabille pas les gens. Vous venez avec une fracture du bras, ben, on regarde votre bras.
Et normalement, il faut faire déshabiller complètement ?
Je ne dis pas qu'il faut, que c'est normal.
Vous le feriez. Mais aux urgences,
oui. Mon père m'avait appris, que nos maîtres nous ont appris. Et c'est là où j'ai trouvé des pathologies bulleuses, des pemphigus, qui cachaient sous leurs pantalons. Ils ne savaient pas qu'ils avaient ça, d'énormes cloques. C'est des maladies mortelles, d'ailleurs. C'est maladies du derme, enfin, peu importe. Des maladies comme dans les livres. Je voyais la pathologie que vous voyez à Saint-Louis, dans le musée. Et c'était un territoire que je découvrais, que personne n'avait décrit. En moi, que je suis un vieux de la vieille, je regardais le symptôme qui n'exprimait pas. Il ne comprenait pas le temps. Vous revenez dans 3 jours, vous venez mercredi pour refaire votre pansement. Mais qu'est-ce que c'est, quoi, mercredi ?
Et il revenait ou pas ?
Non. Ou alors par hasard, qu'il se faisait reprendre par les flics.
Il y a eu tout de même des patients que vous avez revus avec régularité ?
Oui. J'ai dit, vous allez vous faire... Vous mettez sur le trajet du bus. Parce que c'est un bus qui est tragique, d'ailleurs. Qui fait le tour de Paris. C'était des navettes, quoi. Passait par les Halles, les portes de Paris. Ils ramassaient les gens. Comme ça. C'est des rondes continuelles. Puis les amenaient. Ils étaient tous dans un état de saleté. Puis vous voyez, le bus, c'était l'enfer. Ils avaient fini leur bouteille de rhum, parce qu'on n'a pas le droit. Ils avaient chié dans des coins, et des papiers. Vous ouvrez ça, c'est la porte de l'enfer. Les gens dégringolent. Et on fait des grosses plaisanteries. C'était hors du monde. Dans les dortoirs, des lits empilés les uns sur les autres. Il y a des gens qui peuvent pas coucher là, parce que on a les gens attendent leur caïd et interdisent aux autres de se coucher. C'est la notion de... C'était un camp de concentration. C'était un lieu de déportation à Nanterre.
Quelqu'un d'autre que vous a raconté ça aussi, c'est Patrick de Clercq, dans Les Naufragés, qui a été publié dans la collection Terre humaine de Jean Mallory, chez Plon.
Chez Plon.
Oui, avec des photos aussi.
Les miennes sont mieux. Ouais. Non, je rigole, c'est un copain. Oui, mais moi je suis aussi clinicien somatique. Ouais. Lui, c'est un psychanalyste génial. J'ai travaillé avec lui. Et il a cherché à comprendre. Je n'ai pas les mêmes conclusions. Je ne suis pas aussi pessimiste que lui. Je dis que jusqu'au dernier jour de notre vie, on peut acquérir des choses. Même s'il n'y a pas les structures corticales, vous servez des structures anciennes. Votre thalamus, votre hypothalamus, tout n'est pas détruit. Même si au plus profond d'Alzheimer, ils font encore partie de la famille humaine. Ils voient la lumière. Ils sentent des présences. Présence hostile, présence... Ils sentent des odeurs. Pas trop fort, parce qu'il y a des odeurs. Je ne crois pas qu'il faut lâcher. Faut pas lâcher. Il y a toujours quelque chose à faire. Et donc, c'est des humains, c'est pas des insectes. Justement, dans la collection...
Terre humaine, oui.
Il faut lire la tragédie des Hicks. En deux mots, les Hicks, c'était une peuplade de l'Ouganda, sous Idi Amin Dada. Tout a été, chamboulé au point de vue social. Et bref, il restait des Hicks qui étaient chasseurs-cueilleurs, très, très, très archaïques. Et on a voulu les mettre dans un parc naturel. On a changé de milieu. Ces gens qui étaient chasseurs-cueilleurs avec leur mythe, leur tradition, leur code, à partir de ce moment-là, ça a été chacun pour soi. On n'enterrait plus les vieux, les mères piquaient la nourriture des enfants. Enfin, il y a eu la survie immédiate. Et il y avait deux sociologues, anthropologues, qui prenaient des notes, parce qu'ils voulaient savoir comment ils s'acclimataient. Ils voyaient cette dégringolade dans la survie, où chacun pour soi, et, contre les autres. Ils prenaient des notes. Et ils étaient super, à la fin de leur mission, ils sont allés voir l'éditeur, leur éditeur, qui avait commandé cette mission. Il dit, regardez, pour la première fois. Il dit, qu'est-ce que vous faisiez? Ben, nous, on filmait, on prenait des notes. Ah bon, et pendant que les gens se détruisaient, tout ça, vous preniez des notes. On vous publie pas, les mecs. C'est pas des insectes que vous voyez, c'était des... Vous aviez le devoir d'intervenir. C'est pas des gens étrangers, pas des extraterrestres, ni des infraterrestres. C'est pas des infra-hommes. Il y en a un qui s'est flingué. La tragédie déique, chez Plomb, collection Terre humaine.
Oui. Vous voyez, Mallory, oui.
Je fais de la pub pour Mallory. Pour Plomb.
Xavier Emmanueli, la maison de Nanterre a été fermée?
Non, non. Elle a changé ses objectifs. Parce qu'à partir de ça, c'est là où j'ai réagi. C'est que j'ai créé le SAMU social. Après, parce que je savais des choses. Je connaissais le SAMU à fond, puisque j'ai travaillé. Je ne peux pas dire que je suis fondateur du SAMU, mais je suis à côté. Je suis premier assistant chez mon patron, Huguenard. On monte le SAMU, je connais à fond comment ça marche.
Je
connais.
Vous aimez ça?
La prison, oui, j'aime. Oui. Les gens savent que mon nom est associé au SAMU. Regardez où on est.
Oui.
On ne m'a pas laissé dans la nature quand j'ai demandé. L'asile politique, on me l'a donné au SAMU. C'est le professeur Carly qui m'a dit, bien sûr, tu viens.
Dans l'hôpital Necker.
Ouais. Et donc, je savais ce que c'est que la grande exclusion. Je savais ce que c'est que le SAMU. Je connaissais les comportements. J'ai pu faire le SAMU social sur ces bases. Mais ça n'a pas été un chemin de rose, vous vous doutez bien.
Et nous en parlerons demain soir. Nous serons toujours au SAMU pour parler du SAMU social.
Merci.
Merci Xavier Emmanueli.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Lenné avec Xavier Emmanueli. À voix nue, réalisation Clotilde Pivin, prise de son Frédéric Quéroux, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.